France Inter.
Le journal Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Les Français ont la bougeotte pour les ponts du mois de mai. Les professionnels du tourisme font le plein et retrouvent le sourire. Avec la menace de l'offensive israélienne sur Rafah, de plus en plus de Palestiniens cherchent à fuir Gaza. 40 000 euros pour sortir de l'enclave palestinienne, partir en Égypte. Témoignage dans ce journal. En Espagne, la suppression du prix national de la tauromachie. Applaudissements des défenseurs des animaux, colère des aficionados des corridas et de l'opposition.
À 7h50, un invité exceptionnel sur l'antenne d'Inter alors que le front ukrainien semble stagner depuis des mois, alors que l'aide américaine commence tout juste à arriver et que des élections prochaines peuvent peser sur le conflit, le maire de Kiev, de passage à Paris, répond à nos questions. Vitali Klitschko sera avec nous.
France Inter.
Joli mois de mai. Pour la météo, on repassera. Mais alors pour les ponts, 2024, c'est bingo. Et visiblement, les Français ont décidé de profiter de ce calendrier favorable aux déplacements. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour.
Les professionnels donc du tourisme retrouvent le sourire.
Si l'on prend les premières indications, par exemple, des Gîtes de France, on constate que pour le pont de l'Ascension, le taux d'occupation au niveau national est de 88% contre 55% l'année dernière. Et plusieurs sites de vente de voyages en ligne confirment également une hausse des réservations, évoluant entre 9 et 17% par rapport à l'année dernière. Alors ceux qui profitent de ces ponts réservent plutôt pour des courts séjours, c'est-à-dire 3 nuits, et 76,5% d'entre eux vont prendre la direction de la mer, en Bretagne, dans les Pays de Loire et en Occitanie. Et plus surprenant, il y a un département qui a beaucoup de succès, c'est le Pas-de-Calais, qui arrive en deuxième position des réservations de gîtes durant cette période. Enfin, ces chiffres ne veulent pas forcément dire que les professionnels vont gagner beaucoup d'argent, car il y a souvent en cette période ce que l'on appelle de l'hébergement non marchand, en clair, des séjours dans la famille ou chez des amis.
Et il y a aussi, Philippe, ces Français qui profitent de cette période pour voyager plus loin.
Oui, cela représente malgré tout moins de 10% des départs. Alors là aussi, on reste plutôt sur des destinations de proximité, le Maroc, le Portugal et la Turquie, avec trois villes qui font particulièrement le plein durant le mois de mai, Marrakech, Lisbonne et Istanbul. Enfin, pour ce qui est des destinations long courrier, cela reste anecdotique, mais on retrouve tout de même trois destinations phares, Dubaï, New York et Bangkok.
Merci Philippe Lefebvre.
Une délégation du Hamas est attendue au Caire ce samedi.
Pour poursuivre les discussions afin de parvenir à un accord avec Israël sur une trêve dans la bande de Gaza. Les médiateurs, Égypte, Qatar, États-Unis attendent depuis près d'une semaine la réponse du Hamas à une nouvelle offre de trêve soumise fin avril. Et avec la menace de l'offensive sur Rafah, de plus en plus de Palestiniens cherchent à quitter Gaza. D'après l'ambassadeur palestinien au Caire, plus de 80 000 personnes ont déjà fui l'enclave depuis le début de la guerre. Mais le passage coûte une fortune et le statut des Palestiniens, une fois arrivés, est ensuite bien difficile. Témoignage d'un Gazaoui réfugié en Égypte. Reportage Étienne.
Avec toute sa famille, Raled a mis 24 heures à passer la frontière avant de rouler vers le Caire où il est maintenant hébergé dans un appartement.
Épuisé.
Pour sortir, Raled a dû payer presque 40 000 euros aux Égyptiens. La plupart des Gazaouis aujourd'hui cherchent des soutiens financiers pour s'offrir un avenir à l'extérieur.
La plupart, ils ne veulent pas rester parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Même si la guerre termine demain, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a rien.
Pour autant, la route ne se termine pas là. Le statut des Palestiniens en Égypte est précaire. Raled a 45 jours pour trouver un nouveau port d'attache.
Je suis en train de penser, c'est quoi le prochain étape ? D'y aller où ? Ici, on n'a pas de choses légales en Égypte, malheureusement. Ils ne veulent pas nous considérer comme des réfugiés.
Ce que dit aussi Raled, c'est que le Hamas a toujours prise sur Rafah, à Gaza, malgré la montée du mécontentement.
Les cris contre Hamas, ça augmente, mais elle n'est pas encore arrivée à un point d'avoir une révolte contre eux, parce que ils peuvent torturer n'importe qui dans la nuit, ils peuvent rentrer dans ta tente pour te frapper. C'est pas encore le moment pour dire que pour Hamas, game over.
Raled prépare son départ depuis le mois de mars. Il a dû emprunter de l'argent à sa famille et il a bradé sa voiture.
Étienne Monin, et c'est dans ce contexte que la mobilisation pro-palestinienne pourrait en France faire tache d'huile chez les lycéens. L'Union syndicale lycéenne veut les mobiliser aux côtés des étudiants. Et pour l'USL, eh bien, elle appelle au blocus des lycées lundi et mardi. Une marche blanche attendue cet après-midi dans le centre de Châteauroux à la mémoire de Matisse, ce jeune de 15 ans poignardé par un adolescent du même âge samedi dernier. La famille demande aux participants du respect tout au long du parcours et surtout qu'il n'y ait pas de récupération politique de ce drame.
Une agression mortelle au couteau qui intervient après de nombreuses autres en France ces derniers mois.
À Bordeaux, à Crépol, dans la Drôme, tuer à l'arme blanche, c'est même devenu en France le mode opératoire le plus courant lors d'homicides. C'est ce que montre une récente note confidentielle de la direction de la police judiciaire que vous avez pu consulter, Aurélien Terrard.
Entre 2019 et 2021, 30% des meurtres ont été commis au couteau. Les jeunes sont de plus en plus impliqués dans ces crimes par arme blanche. Le profil type d'un agresseur au couteau, c'est un homme de 33 ans, déjà connu de la justice, issu d'un milieu plutôt défavorisé. Un quart des victimes ont moins de 26 ans. Si le couteau est l'arme employée dans tous les attentats meurtriers les plus récents en France, l'arme blanche est aujourd'hui largement utilisée en dehors de tout contexte terroriste pour agresser, tuer et menacer. Comme par exemple en mars à Chenôve, en Côte d'Or, où une proviseure a été menacée dans un lycée par un élève. Le couteau n'est plus l'arme des marginaux. Les policiers le constatent lors des contrôles. Monsieur, tout le monde en porte sur lui pour se protéger. Presque aucun département n'est épargné par ce phénomène. Certains départements ruraux enregistrent même les plus forts taux d'homicides par arme blanche, plus que dans certaines zones urbaines. C'est le cas des Deux-Sèvres, de la Mayenne, des Ardennes, de la Haute-Savoie ou encore de la Haute-Vienne.
Aurélien Terrard, il ne nous semblait pas pertinent de maintenir un prix qui récompense une forme de maltraitance animale. Le gouvernement espagnol supprime le prestigieux prix national de la tauromachie, un prix décerné à de nombreux toreros de renom. La mesure a été applaudie par les défenseurs des animaux. Les gouvernements régionaux pourront toujours, s'ils le veulent, faire cavalier seul et attribuer leur propre prix de tauromachie. Mais le ministère espagnol de la Culture estime aussi qu'il y a de moins en moins d'aficionados. Moins de 2% des Espagnols ont assisté à une corrida pendant la saison 2021-2022. Correspondance à Madrid de Mathieu de Taillac.
On savait du ministre de la Culture espagnol, Ernesto Urtasun, qu'il était hostile à la corrida. On savait son mouvement politique, Sumar, de gauche radicale, disposé à mettre des bâtons dans les roues des toreros. Mais son annonce de supprimer le prix national de tauromachie, qui dépend de son ministère, n'en a pas moins surpris Ernesto Urtasun.
Les prix doivent être l'expression de la culture, des désirs et des aspirations de la société espagnole. Dans un exercice de révision, nous avons considéré qu'il existe une sensibilité croissante vis-à-vis du bien-être animal dans notre société et qu'il n'était donc pas opportun d'organiser cette année le prix national de tauromachie et qu'il fallait même procéder à sa suppression définitive. Nous apportons ainsi une réponse à une opinion de plus en plus majoritaire chez les Espagnols, le rejet de la torture animale.
La droite a immédiatement répliqué. Le Parti populaire promet de rétablir le prix s'il revient aux affaires. Et la présidente de la région de Madrid organisera sa propre version en copiant toutes les modalités. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
C'est la première fois qu'un tournoi d'e-sport féminin en sport en France va rassembler autant de public. Les Valkyrie Games ont lieu ce week-end à Paris. 8 équipes, 5 joueuses vont s'affronter pendant 48 heures sur le jeu Valorant devant près de 300 spectateurs. C'est une compétition qui sera également retransmise sur la plateforme de vidéo en direct Twitch, sur la chaîne du journaliste Samuel Etienne, suivie à distance par plus de 10 000 personnes. Coup de projecteur inédit pour donner davantage de visibilité aux femmes françaises dans le monde du jeu vidéo. Manon Derdevé, reportage.
Elle s'appelle Lou Angel, mais dans le milieu de l'e-sport, tout le monde la connaît sous le pseudonyme Lou Piot. À 21 ans, elle est joueuse professionnelle. Pour elle, c'est Valkyrie's Game. C'est un véritable tournant.
Pour la scène féminine, c'est un gros, gros pas en avant. C'est la première fois aussi que des filles vont avoir des vrais spectateurs, entendre des gens, je vais pas dire crier leur nom non plus, hein, mais les femmes ont très rarement eu l'opportunité d'avoir des fans, quoi, des gens qui les supportent comme ça dans la vraie vie en plus.
Les 40 joueuses sélectionnées ont une vingtaine d'années en moyenne, elles viennent de France et d'Europe, elles s'affrontent sur Valorant, un jeu de tir tactique en équipe, en jeu une récompense de 5000 euros, une compétition qui a aussi vocation à changer la place des femmes dans le milieu de l'e-sport.
On n'observe aucune femme dans les équipes mixtes au plus haut niveau. Et donc, c'est un très bon moyen de mettre de la visibilité sur les femmes pour qu'elles voient qu'elles sont capables de jouer. Le but de ces scènes féminines et de ces initiatives-là, c'était de permettre aux femmes d'être suffisamment professionnalisées et suffisamment en confiance pour tenter l'expérience de la scène mixte qui concourt aux côtés d'hommes qui les acceptent dans leurs équipes. Et aujourd'hui, on en est encore loin.
Selon l'association Women in Games, les femmes ne représentent que 7% de l'ensemble des joueurs d'e-sport.
Les Valkyrie Games, c'est aujourd'hui et demain dans le 11e arrondissement de Paris, au quartier général.
Et c'était le journal de Laurence Thomas. À suivre, les nouvelles mesures sur le logement social dans l'édito Echo et le rappeur iranien du mouvement Femme, Vie, Liberté. Dans la chronique, on va en reparler.